Bonjour à toutes et à tous, alerte nouveauté pour 2025. Et pas des moindres. Si vous exercez en profession libérale, via une SEL, une société d'exercice libéral, que vous soyez avocat, médecin, architecte, expert comptable, bref, beaucoup de monde est concerné, eh bien attention, les règles de votre rémunération vont changer. Aujourd'hui, on se penche sur cette réforme. Notre mission, décrypter ça ensemble, comprendre ce qui bouge et pourquoi c'est crucial de s'y préparer dès maintenant.
Oui, tout à fait. Pour resituer très vite, la SEL, c'est cette structure juridique qui permet aux professions libérales d'exercer en société. Jusqu'ici, la façon dont les associés étaient payés et surtout comment c'était imposé, c'était parfois un peu complexe, disons-le. Et l'administration fiscale, elle veut simplifier tout ça, clarifier et harmoniser les règles du jeu fiscal avec cette réforme.
D'accord. Alors, rentrons dans le vif du sujet. C'est quoi le changement principal, le cœur de la réforme qui arrive en 2025?
Le gros changement, c'est une division obligatoire. Dès 2025, les revenus qu'un associé tire de sa SEL devront être séparés en deux catégories bien distinctes.
Deux catégories? Ok, lesquelles?
Alors la première, ce sont les revenus qui correspondent aux fonctions de gestion, de direction, diriger la boîte quoi. Et ces sommes-là, sauf si on peut prouver un vrai lien de subordination, ce qui est rare en pratique pour un associé dirigeant, eh bien elles seront imposées comme des traitements et salaires.
Ah oui, d'accord. Comme un salaire classique, fiscalement parlant.
Et ça change quoi concrètement au niveau des cotisations, par exemple?
Ça influence directement le calcul des cotisations sociales sur cette partie-là. Ça rapproche cette rémunération du régime social des salariés, en quelque sorte. D'accord. Donc ça, c'est pour la casquette de patron. Et l'autre partie des revenus?
Celle qui vient vraiment du métier lui-même.
L'expertise technique.
Exactement. C'est la deuxième catégorie. Les revenus de l'activité technique. Le cœur du métier libéral. Les actes, les consultations, les plans d'architecte. Et cette partie-là, elle, sera imposée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, les fameux BNC.
D'accord, BNC. Donc on a salaire d'un côté, BNC de l'autre, c'est plus clair. Effectivement, ça met fin à une zone grise, si je comprends bien.
C'est tout à fait l'idée. Avant, on pouvait avoir des situations un peu floues, où tout était mélangé. Là, la distinction est nette et obligatoire.
Mais pourquoi ce besoin de tout découper comme ça maintenant? Quelles sont les raisons derrière cette réforme?
Éviter que, selon les montages, les traitements diffèrent trop. Ensuite, il y a sans doute aussi une volonté de limiter certaines optimisations fiscales qui jouaient sur cette ambiguïté. Mettre un peu d'ordre, quoi. Et puis, ça reconnaît aussi la double casquette de l'associé de SEL. Il exerce son art, mais il peut aussi être gestionnaire.
Logique. Sur le plan pratique, alors, qu'est-ce que ça veut dire pour les SEL? Il faut agir vite, j'imagine.
Ah oui, il ne faut pas traîner. Première chose à faire, et c'est crucial, une décision en assemblée générale. Il faut acter officiellement comment on répartit les fonctions. Qui fait quoi, en gros, entre la direction et le technique, et surtout, quelle rémunération va avec chaque fonction. Il faut que ce soit clair et écrit.
Une AG pour graver ça dans le marbre. Et ensuite, j'imagine que la compta doit suivre.
Absolument. La comptabilité doit être adaptée pour bien séparer ces deux flux. Isoler ce qui relève des salaires et ce qui relève des BNC avec les règles propres à chaque catégorie. C'est indispensable.
Bon, ok. Ça demande un effort d'adaptation, c'est sûr. Mais est-ce qu'il y a des avantages à cette nouvelle organisation? Ou c'est juste une contrainte de plus?
Non, il peut y avoir des points positifs. D'abord, plus de transparence, ça veut dire moins de risques de discussion ou de litige avec le fisc. C'est déjà pas mal. Et puis, pour la partie technique en BNC, ce régime peut parfois être plus intéressant fiscalement. On pense aux déductions de frais professionnels, par exemple. Mais attention.
Oui.
Attention à quoi? Attention, chaque cas est particulier. L'avantage fiscal n'est pas automatique. Ça dépend vraiment de la situation de chacun, des charges, etc. Faut faire le calcul.
D'accord. Donc, prudence. Et j'imagine qu'il y a des pièges à éviter si on se trompe dans la répartition, par exemple.
Exactement. Le risque principal, c'est une mauvaise qualification des revenus. Si on met en BNC une somme qui correspond clairement à de la direction, par exemple, là, oui, il y a un risque de redressement fiscal. D'où l'importance de bien définir les choses en amont.
Et de se faire accompagner, peut-être.
Expert comptable, avocat fiscaliste, c'est plus que conseillé, oui. Pour sécuriser toute la démarche, valider la répartition, adapter la compta, c'est vraiment un sujet où l'expertise est précieuse.
Pour que ce soit bien concret, on a un exemple chiffré dans les infos qu'on a consultées, non?
Oui, prenons cet exemple concret. Un associé gagne 130 000 euros par an au total. L'Assemblée générale décide que 50 000 euros correspondent à ses fonctions de direction.
Ok.
Et que les 80 000 euros restants rémunèrent son activité technique, son cœur de métier.
Donc ?
Eh bien, les 50 000 euros seront imposés comme un salaire, avec les cotisations sociales qui vont avec, et les 80 000 euros seront imposés en BNC, avec les règles des BNC. L'impact fiscal et social est immédiat et différent pour chaque bloc.
Très clair. Donc, pour résumer l'essentiel, dès 2025, c'est la fin du tout en un pour la rémunération des associés de SCL. Séparation obligatoire. Direction égale traitement et salaire. Technique égale BNC. Et le mot d'ordre, c'est anticiper. Décision d'AG pour fixer la répartition et adaptation de la compta. C'est ça ?
C'est exactement ça. Voilà pour les aspects, disons, techniques et fiscaux. Mais ça ouvre une question intéressante, je trouve, pour aller un peu plus loin.
Ah oui, ok. Laquelle ?
Au-delà de la simple conformité fiscale, on peut se demander comment cette distinction plus nette, plus formelle, entre le rôle de gestionnaire et celui de praticien, comment ça pourrait influencer à terme la stratégie même des cabinets, leur organisation interne, la répartition des pouvoirs et des responsabilités au sein des SEL. C'est une réflexion à avoir, je pense.